quelques lignes de la préface. La Corée, presque île montagneuse, que les Chinois appellent Kaoli, s'allonge entre la mer du Japon et la mer Jaune. Elle compte 7 millions d'habitants, aujourd'hui 75 millions. De vastes forêts de chênes, d'ormes, de châtaigniers, de conifères recouvrent les plaines et les hauteurs. On y rencontre des tigres, des ours, des sangliers, des renards, des cerfs. Les reptiles abondent et parmi eux le terrible trigonocéphale. Les principales cultures sont le riz, le maïs, le millet, le cotonnier, le ginseng, plante médicinale. La presqu'île éprouve les rigueurs du froid et les rigueurs de la chaleur. Le sol, très fertile sur les côtes, renferme de la houille, de l'or, de précieux minerais, et cette richesse explique bien des convoitises. Le royaume relevait de la Chine depuis 1120, mais le roi, dont l'autorité était absolue, gardait son indépendance pour l'administration intérieure de ses États. Et le pays est devenu colonie japonaise en 1910. Les Coréens appartiennent à la famille mongole. Leur race et leur langage tiennent le milieu entre le chinois et les japonais. Bons marins, habiles pêcheurs, ils professent la religion bouddhique. Leur costume se rapproche de celui des Chinois, mais il est blanc. Les Russes, leurs voisins aux confins de la Sibérie, appellent les Coréens « cygnes blancs », en considération de leur timidité et de la couleur habituelle de leurs vêtements. Ce sont, pour la plupart, dit l'America Wheatley, qui les a étudiés de près, ce sont des enfants merveilleux, non encore sortis de la période légendaire. Ces contes furent recueillis et publiés en russe et en chinois par un ingénieur bien connu, M. Garine. Voici quelques lignes de son introduction. 20 ou 30 Coréens aux manchetelets de dames, aux chapeaux à large bord, à coiffe haute et étroite, nous entourait aussi un croupeton. Sur la pierre de l'un de nous, le meilleur bar de l'assistance se mettait à compter, tandis que les autres fumaient leurs pipes et écoutaient avec attention. Mon ami, un Coréen nommé Kim, instituteur de profession, m'accompagnait et nous notions les récits rapidement, phrase par phrase, en nous efforçant de conserver leur saveur et leur simplicité. J'écoutais ces contes tantôt le soir après un dîner hospitalier, tantôt lorsque nous nous reposions sur une éminence, où nos regards pouvaient embrasser le vaste panorama de plaines et de montagnes, d'un délicat dessin automnal qui rappelle celui des vieux tapis persans. En gerbe de rayons violets et orangés, le jeune soleil d'Orient se couchait dans toute sa majesté. Après avoir étincelé de 1000 flammes, il s'éteignait et mourait dans les pâleurs crépusculaires. À ce moment-là, les êtres assemblés autour de nous et les paysages semblaient participer d'une époque fabuleuse. Ici, nous sommes en Corée, dans la Corée millénaire. Nous retrouvons sa morale, ses croyances, ses mœurs, son instinctif désir de justice. Le dieu du ciel, le grand Okjemache, intervient fréquemment pour protéger les honnêtes gens. Son influence, même quand il n'est pas nommé, se devine partout. Elle se révèle par des accidents secondaires qui, dans le déroulement du drame, prennent une valeur et contribuent à sauver le héros ou l'héroïne. L'autorité paternelle est absolue, image de celle du roi. Mais si le père abuse de ses droits, il est châtié. Au-dessus des lois les plus respectées, trône la loi éternelle. Ce sentiment d'une justice supérieure se retrouve chez tous les peuples. On connaît la pièce splendide de Sophocle, où la pieuse Antigone se dévoue pour rendre à son frère Polynice les honneurs de la sépulture. Elle désobéit aux ordres du farouche Créon, qui veut que le cadavre soit abandonné, et l'osir au tyran que la loi divine est au-dessus des lois édictées par un maître. La morale et la sagesse universelle rayonnent en ces contes coréens. Assurément, l'obscurcissement, parfois des croyances et les usages particuliers de ces peuples mongols. Par leur fantaisie et leur imprévu, ils charmeront les enfants. Les hommes faits les liront avec intérêt. Quant aux savants, ils les considéreront comme des documents précieux d'une antiquité prodigieuse. Ils étudieront le sens allégorique de certains incidents, parfois les moindres en apparence de certains acteurs, bêtes ou gens, qui leur révéleront quelques-uns des sentiments de l'humanité primitive. Serge Persky.